Comme église de professants, nous sommes un peu déstabilisés par ce commandement sévère de Jésus à Pierre, à la fin de l'entretien, de ne dire à personne qu'il est le Christ. L'Union des églises évangéliques libres affirme en effet dans sa déclaration de foi que l'Église rassemble ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Et l'Union des Églises libres s'inscrit de cette façon dans la bonne tradition de l'Église chrétienne, quelles que soient ses dénominations. Au plus loin que l'on remonte, l'Église a toujours confessé sa foi. Et je vous ai fait passer tout à l'heure en diapo d'ouverture quelques sigles qu'on peut remettre d'ailleurs, hein, qui sont les manières de confesser de l'histoire. Au temps des catacombes, l'Église persécutée a confessé au moyen d'acronymes tels que celui qui est resté très célèbre, qu'on trouve collé sur les pare-chocs des voitures à l'arrière, Ictus, ou bien d'autres, comme qu'on peut appeler cette fois des christogrammes, tels que ceux-là qui sont présentés ici, le très célèbre IHS, qui forme les trois premières lettres majuscules grecques du nom Iesus, Jésus, ou encore ce X planté d'un P. Ce sont des lettres majuscules grecques qui ne veulent pas dire X et P. Elles sont les deux premières lettres majuscules du grec Christos, Christ. Avec ce IHS et ce XP, nous avons le nom complet de Jésus le Christ. Et l'Église de tous les temps, de tous les lieux, que ce soit en symbole, que ce soit en parole, a toujours confessé sa foi. J'aime beaucoup cette parole de ce théologien catholique jésuite, Henri de Lubac, qui explique cette nécessité vitale et historique pour l'Église de professer sa foi. Je cite « La confession présuppose un acte, intérieur évidemment, dont elle rend compte, l'acte de foi. La confession et ma réponse au Dieu qui m'appelle, mon adhésion au Dieu qui se révèle, mon engagement de retour envers le Dieu qui se donne. » L'Église a cherché en cela à marcher sur les traces de l'apôtre Pierre, qui lui aussi confesse ce matin sa foi au Christ. Pierre, ce jour-là, quelque part, Césarée de Philippe, on est du côté des sources du Jourdain, tout près du mont Liban. Répond à cette question de Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre devient, par sa réponse, le premier confessant de l'histoire chrétienne, quand il dit « Tu es le Christ ». Le Fils du Dieu vivant. Et en retour, Jésus va le déclarer bienheureux. Pourquoi donc cette scène magnifique, poignante, puissante, s'achève-t-elle en queue de poisson, si j'ose dire ? Pourquoi Jésus commande-t-il sévèrement maintenant à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ? Pourquoi? N'est-ce pas le but même de l'appel des disciples et de l'Évangile? Découvrir la messianité de Jésus, Christ signifiant Messie, ou celui qui est oint, l'envoyé donc, découvrir cela et l'annoncer au monde entier. Pourquoi ce commandement sévère à ne pas dire? Alors, il y a une explication traditionnelle qui a été apportée par les commentateur du Nouveau Testament. Cette réponse est la suivante. En interdisant aux disciples de dire qu'il est le Christ, Jésus ferait preuve de pédagogie. Tant qu'ils ne seront pas passés par l'épreuve de la croix, par l'événement de la résurrection, par l'événement de la Pentecôte, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils prêchent autant qu'ils se taisent, pour le moment. Voilà l'explication traditionnelle. C'est une possibilité. Mais elle ne me paraît pas totalement satisfaisante. Parce que, si tel était le cas, cela aurait une conséquence un peu fâcheuse. Il s'agirait, ce commandement à ne pas dire, à se taire, il s'agirait finalement d'une parole de circonstance de Jésus, une parole à oublier, puisque dans le contexte de la résurrection, de la Pentecôte, il faut déclarer une parole à ne pas prendre en compte. Et cela me gêne beaucoup. Il n'existe pas de parole du Christ qui ne fasse sens et qu'il faille reléguer aux paroles de circonstance. D'ailleurs, si tel était le cas, si Jésus avait simplement fait preuve de pédagogie, que faire de cette autre parole qu'il avait prononcée au chapitre 10 un peu avant, au moment de l'envoi des disciples en mission? Il leur dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous ai dit dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Pourquoi faudrait-il maintenant se taire? Dans le contexte, vous l'avez senti très solennel, hein, de cet échange entre Jésus et les disciples, où Pierre, inspiré par le Père Céleste, découvre l'identité du Christ, où le fondement même de l'Église est posé, où les clés du royaume sont promises, que viendrait faire en conclusion de cet échange aussi puissant, aussi fondateur, une parole sans importance? Il y a peut-être une autre explication. Et j'aimerais vous la partager. Une autre explication à ce commandement de ne pas dire que Jésus est le Christ. Il faut pour cela revenir au début de l'entretien entre Jésus et les disciples. À la toute première question, vous en souvenez? Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Là encore, on a fait de cet enchaînement de questions un simple procédé pédagogique pour tirer cette confession de Pierre, etc. Moi, j'entends dans cette question aux disciples, qui dit-on que je suis, un intérêt profond, sincère de Jésus pour ce que les gens pensent de lui, pour leurs questions, pour leurs réponses, pour leur recherche de sens, un réel intérêt pour ce qu'ils sont. Essayez de poser la question autour de vous aujourd'hui. D'après vous, dites ça à vos amis, d'après vous, qui est Jésus? Il y aura toutes sortes de réponses. Vous risquez notamment d'avoir un « j'en sais rien, moi », parce que notre société post-chrétienne, aujourd'hui, suscite plutôt l'indifférence à ce genre de questions que de grands discours. Vous pourrez tomber sur un musulman qui vous dira l'un des prophètes, comme dans la réponse donnée ici. Vous tomberez encore sur des agnostiques que Jésus, qui vous diront que Jésus était sûrement quelqu'un de très bien. Et puis vous avez alors là aussi peut-être des complotistes qui vous diront que Jésus était le seul à avoir décrypté la perversité du système et qu'il l'a payé cher. C'est pas totalement faux d'ailleurs. ni la réponse d'ailleurs des gens. L'un des prophètes, oui, Jésus est aussi prophète. Mais ce qui serait, frères et sœurs, vraiment formidable, ce serait que vous ne fassiez pas de ce questionnement des autres une simple stratégie pour leur glisser, juste derrière, le bon message évangélique. Notez que Jésus n'a pas corrigé l'opinion publique. Il n'a pas dit « Jérémie, n'importe quoi !» Jean-Baptiste, Élie, non mais, et puis quoi encore ? Il n'a pas répondu « Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant !» Non. Il accueille chacun dans les possibilités qu'il a de comprendre le divin, le plan de Dieu. D'ailleurs, Jésus se pose en fils de l'humanité. Qui est le fils de l'homme ? Il se pose en fils de l'humanité, c'est-à-dire en homme capable d'écoute, capable d'attention et de respect pour les autres. Il ne monte pas au créneau de l'apologétique, de la défense de l'évangile. Il croit, il écoute ce que l'on dit. Et je crois qu'il y a là, dans l'attitude du Christ, un modèle pour nous préparer à nos dialogues, à nos rencontres avec ceux qui ne croient pas, ou ceux qui ne savent pas, ou ceux qui croient autrement que nous. On ne se perd jamais soi-même en écoutant les autres. Ce dialogue avec les disciples procède, vous l'avez vu, hein, par cercle concentrique, du plus large au plus serré. Jésus part de l'opinion publique, et puis il s'adresse au cercle plus rapproché de ses disciples, pour finir dans un tête-à-tête avec Pierre. On passe des réponses générales, qui n'engagent rien, ou pas grand-chose, à ce que moi je pense de Jésus. Et puis, enfin, au-delà de ce que je pense de Jésus, alors de vérité, à ce que je vis dans ma relation avec Jésus. Vous entendez ces trois étapes ? Ces places sur le podium, peut-être ? Même si Romains 19, en tant qu'église libre, vous connaissez ça par cœur. Romains 19. C'est horrible, hein, quand on fait passer des tests de connaissances bibliques comme ça à l'Assemblée. Non, mais si je vous le dis, vous allez faire « Ah, mais oui, c'est si tu confesses de ta bouche, ben ça y est, vous, il suffisait de mettre la première. Voilà, et force est de constater que on peut dire « Tu es le Christ » sans que cela change grand-chose à nos existences. La profession de foi, les plus belles vérités évangéliques ne sauvent pas. Il me revient à l'exemple de Jean Calvin, le réformateur du XVIe siècle. Il s'était bien moqué de ceux qu'il appelait les Nicodémites. C'était des protestants français qui, comme Nicodème, dans l'évangile de Jean, croyait, mais sans oser le dire, parce qu'ils avaient peur des persécutions. Vous vous souvenez, hein, Nicodème qui venait voir Jésus de nuit. Ici, Jésus met en garde contre l'attitude inverse, contre la déclaration qui n'engage à rien. Peut-on dire « Jésus est le Christ » et reprendre ensuite une vie normale ? Plus que les déclarations, aussi indispensables soient-elles, c'est l'expérience personnelle du Christ, de la vérité. C'est la relation avec Christ qui sauve. Dire « Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est bien. C'est une vérité théologique indiscutable, impeccable. Mais voilà, la confession a un effet indésirable contre lequel Jésus nous met en garde ce matin. La confession a tendance à faire de Dieu un objet à croire, une vérité spirituelle, un texte. La déclaration de foi, ce sont des textes importants qu'on range bien en vue, certes, sur les rayonnages des acquis de la vie d'Église et de l'existence, et puis qu'on finit par oublier. Comme Pierre, nous sommes invités par Jésus à passer du savoir sur Dieu à la vie avec Dieu, à la vie en Christ. Pierre ne dit pas à ceux qui sont là, aux disciples, aux autres, à l'Église, il ne dit pas « Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce n'est pas ce qui se passe là. Il se tourne vers son Seigneur et lui déclare dans les yeux « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Heureux es-tu, Pierre, parce que ta déclaration de foi te place à l'entrée d'un chemin de bonheur. Elle n'est pas encore le bonheur, même si ce bonheur passera par la persécution et par la vie et les épreuves. Cette rencontre avec Jésus et Pierre nous renvoie au fond chacun à notre relation à Dieu. Et elle nous pose la question du fondement de nos existences. Ma vie chrétienne ne se construit pas seulement sur des vérités bien ficelées, des vérités à croire, mais sur un appel à sortir de mes emprisonnements pour m'ouvrir à la relation au Christ. Dieu en Christ nous appelle à sortir de nos cadres, de nos schémas, de nos schémas prêts à penser ou à croire, pour nous aventurer sur un chemin où le nouveau va survenir et nous transformer profondément. La question est simple. Jésus nous étonne-t-il encore? Sa parole nous dérange-t-elle encore un peu? Ou résonne-t-elle comme une vieille chanson qu'on fredonne sans y penser, comme une question réglée une fois pour toutes? Ce qui fait l'Église, c'est notre mobilité permanente qui est rendue possible par l'écoute personnelle et communautaire de l'appel de Dieu. Il retentit tout le temps, cet appel de Dieu, pour chacun, tout le temps. L'accueillerons-nous ce matin dans sa puissance, dans sa nouveauté? Jésus nous appelle ce matin à devenir non seulement des confessants, mais aussi des chercheurs de Dieu. Non seulement des femmes et des hommes de la connaissance, mais aussi, et peut-être premièrement, des femmes et des hommes de la relation. Nous risquerons-nous dans pareille aventure? Amen.